Vous êtes sur RTL.
8h. RTL Soir, Thomas Soto, bonsoir Thomas.
Bonsoir Caroline, bonsoir à tous et bienvenue dans RTL Soir. Dimanche soir, on saura, ce sera le finish du marathon des municipales 2020 et il faudra avoir des yeux partout tant les enjeux seront nombreux. On regardera vers Toulouse et Marseille où la droite tremble. On verra si pour les écolos le verre sera à moitié vide ou fera complètement le plein. On scrutera le Havre, terre d'élection ou de désillusion du Premier ministre Édouard Philippe. Et puis bien sûr, il y aura Paris, la capitale. Rachida Dati parviendra-t-elle à réaliser son rêve? Celui de faire tomber de son piédestal la maire sortante, la candidate LR qui, après Anne Hidalgo et Agnès Buzyn, sera avec nous en direct à partir de 18h15. Et elle répondra également à vos questions. Pour les lui poser, il y a l'application RTL ou le téléphone dès maintenant en nous appelant au 3210. Bonsoir Isabelle Choquet.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
On découvre avec vous les autres grands titres de ce show, ce très chaud jeudi 25 juin.
Un petit garçon de 5 ans entre la vie et la mort dans le Rhône, victime d'un rodéo à moto. Il a été percuté par un deux roues. Le pilote a pris la fuite. Récit complet dans un instant. Le retour de Paul Bismuth, l'affaire des écoutes de Nicolas Sarkozy revient dans l'actualité car on découvre que les plus grands avocats parisiens ont été placés sous surveillance à leur insu pour découvrir la taupe qui a alerté l'ancien président. À suivre également le CIDAction ce soir, alerte sur les jeunes, ils ne savent pas grand-chose de la maladie et se croient invincibles. Le Texas submergé par la vague du coronavirus, les services de réanimation sont quasi saturés mais les habitants rejettent les masques. Et puis nous on a appris à vivre avec un masque mais maintenant il faut apprendre à vivre avec un masque en pleine fournaise et c'est pas toujours facile, vous allez l'entendre. L'arrivée du quintet cet après-midi à Longchamp, il fallait jouer le 7, le 8, le 9, le 4 et le 11.
La météo, la fournaise, donc Peggy Broche, bonsoir.
Bonsoir Thomas.
Est-ce que ça va s'arranger un peu demain ou est-ce qu'on reste sur la même tendance?
Changement d'ambiance demain, c'est clair, parce que demain matin on aura des averses orageuses sur le nord-est. Ce sera très beau en revanche, ça va rester très beau toute la journée sur le sud-est et sur toute la moitié ouest, un temps mitigé. Dans l'après-midi, des orages également entre le sud-ouest et la région centre. Attention parce que ça risque d'être violent. Avec de bonnes pluies, de la grêle localement, de fortes rafales de vent, un temps bien agité, tout ça sous des températures en légère baisse, surtout à l'ouest. 20 degrés à Brest, 23 à Biarritz, 27 à Bordeaux, mais encore 30 à Paris et Dijon et 32 à Lyon.
Merci Peggy.
RTL Soir.
Alors Isabelle, on va développer tous ces titres, mais d'abord, vous avez une histoire incroyable à nous raconter.
Oui, l'histoire d'un randonneur miraculé. André, 70 ans, qui était parti jeudi dernier pour une balade dans le massif de la Sainte-Baume, dans le Var. Il devait rentrer le soir, donc il avait quelques provisions pour la journée, mais pas grand-chose. Et surtout, pas de portable. Or, malgré son expérience, notre randonneur s'est perdu. Pour retrouver son chemin, il lui a fallu 5 jours et 5 nuits. Ça pourrait être le titre d'un film. Une aventure extrême, en tout cas, Étienne Baudu.
Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire, hein. Et 5 jours et 5 nuits, c'est long, très long, surtout lorsqu'on est bloqué au bord d'une falaise.
J'étais bloqué à 900 mètres de hauteur, je me suis fait un abri sur une petite corniche minuscule de 2 mètres sur 1 mètre, et je suis resté 4 nuits, sans boire, sans manger, dans le froid la nuit. Pour l'anecdote, au bout du troisième jour, le soir, j'ai commencé à boire mon urine, sinon je serais mort. Pendant 4 jours, je l'ai fait, ça.
Et pendant tout ce temps, André espère que les secours vont venir. L'hélicoptère de la gendarmerie passe bien à proximité, mais sans voir ses signaux. Toutes ses tentatives pour quitter cette maudite corniche échouent, ses forces déclinent. Au bout du cinquième jour, en désespoir de cause, il prend tous les risques.
J'ai regravi par l'endroit où j'hésitais, j'ai entamé la falaise. Et par miracle, ça a pu continuer en m'accrochant aux herbes, le rocher. Déjà là, j'étais sauvé. J'étais hors de danger de la falaise.
Et ce jour-là, il a mis 15 heures pour s'en sortir. Il arrive à bout de force au pied du massif dans une hostellerie tenue par des moines. Un miracle pour André.
Beaucoup de gens ont prié pour moi. Les gens de l'hôtellerie, les moines, les religieux ont prié pour moi. Ils ont fait prier le pape pour moi. Ils me l'ont dit, vous vous rendez compte? Ma famille, bien sûr, moi aussi j'ai prié beaucoup. Et ça m'a donné la possibilité de m'en sortir. Une chance miraculeuse, voilà.
Et sa femme Agnès, très pragmatique aussi, a promis à André de lui acheter, si jamais il voulait repartir, un téléphone portable.
Incroyable histoire.
Bonne initiative.
Racontée par Étienne Baudu du bureau RTL de Marseille.
On part à présent à Vaux-en-Velin dans la banlieue lyonnaise où un enfant de 5 ans a été grièvement blessé lors d'un rodéo.
Le petit garçon traversait la route à vélo hier soir lorsqu'il a été percuté par une moto. Il souffre d'une hémorragie cérébrale et d'un traumatisme crânien. Il est entre la vie et la mort. Le pilote du deux roues lui a pris la fuite. Sur place pour RTL, Frédéric Perruche.
Oui, le petit garçon sur son vélo avait quasiment traversé les deux voies de l'avenue Voltaire sur un passage piéton quand il a été percuté par la moto. Peu après 20h, le pilote roulait vite en roue arrière, ce qui expliquerait qu'il n'ait pas vu l'enfant, qu'il n'ait pas freiné. Le choc a été très violent. Le gamin a été projeté à une dizaine de mètres, quasiment sous les yeux de son père, présent dans le square juste à côté. Avant l'arrivée des secours, un voisin ambulancier a prodigué les premiers soins à l'enfant, gravement touché à la tête, traumatisme crânien, hémorragie cérébrale, clavicule cassée. Il est toujours dans un état critique ce soir, placé en coma artificiel. Un accident qui a choqué les riverains excédés par ces rodéos quotidiens.
Des rodéos permanents le jour, la nuit, sous les trottoirs, les passages scrutés, non-respect des feux rouges, et j'en passe. Dans l'après-midi, c'est parti, c'est l'enfer. Tout le monde se plaint, il y a beaucoup d'habitants qui se plaignent. Les gens, ils n'osent pas dire quoi que ce soit parce qu'ils ont peur. Il n'y a plus de respect. Il n'y a plus de respect pour personne.
Le motard qui a pris la fuite juste avant l'arrivée de la police a été identifié. Il est activement recherché.
Frédéric Perruche à Vaux-en-Velin pour RTL.
Les ténors du barreau parisien surveillés pendant des mois à leur insu, hein, évidemment. C'est l'affaire dans l'affaire Sarkozy, ça fait déjà beaucoup de bruit.
Oui, une information révélée par nos confrères du Point. Les policiers ont épluché les fadettes de plusieurs avocats réputés comme Éric Dupond-Moretti ou Jean Veil. Les fadettes, c'est-à-dire le relevé de leurs appels téléphoniques. Objectif, trouver la taupe, la personne qui a informé l'ancien président qu'il était écouté sur la ligne Paul Bismuth. Bonsoir Thomas Proutot.
Bonsoir.
L'information est avérée et cette surveillance est allée très loin.
Absolument. Prenons le cas de Jean Veil, un des fils de Simone Veil. Eh bien, le parquet financier a demandé aux policiers de l'Office anticorruption de repérer tous les téléphones ayant borné au moins une heure à proximité de son cabinet le jour où une taupe est soupçonnée d'avoir informé Nicolas Sarkozy. Et tout cela pour un SMS, un seul, envoyé par un membre du cabinet Veil à l'avocat de l'ancien chef de l'État. Pour le même type de raison, les factures téléphoniques du médiatique Éric Dupond-Moretti ont été épluchées sur une période de 15 jours. Le parquet financier soupçonnait un grand avocat d'avoir eu l'info par un magistrat. L'enquête a duré 5 ans entre 2014 et 2019 et à l'arrivée, rien. Classement sans suite.
Et tout ça, c'est illégal ? C'est quoi le problème ?
Alors, le parquet financier contacté par RTL assume, selon sa porte-parole, analyser des fadettes de grands avocats. Données évidemment sensibles ne requièrent pas d'autorisation spéciale. Les avocats concernés, eux, sont en colère. Sur le fond, maintenant, ce qui est dénoncé par Nicolas Sarkozy, c'est que cette enquête préliminaire a été menée dans le plus grand secret, en parallèle de l'instruction des juges sur l'affaire Paul Bismuth, pour laquelle l'ancien chef de l'État doit être jugé en novembre. Et elle n'a jamais été versée au dossier principal. Alors que justement, selon l'avocate actuelle de Nicolas Sarkozy, elle le dédouane en partie puisque aucune taupe n'a été découverte.
Merci Thomas Proutot du service police-justice d'RTL. Et ce soir, Nicolas Sarkozy dénonce une invraisemblable accumulation de manquements et de dysfonctionnements. Les municipales, avec cette déclaration d'Edouard Philippe dans 76 Actus, la presse locale du Havre, ma plus grande ambition est de redevenir maire aussi vite que possible, c'est-à-dire dès que la mission confiée par le président de la République s'achèvera. Ça peut venir très vite et si c'est le cas, tant mieux. Voilà ce que dit donc le Premier ministre dans 76 Actus.
Il aime bien jouer avec les mots, hein, le Premier ministre. On fait une pause dans un instant. Le SIDAction ce soir, avec quelques semaines de retard pour cause de coronavirus, et l'inquiétante, la très inquiétante insouciance des jeunes face à la maladie.
Thomas Soto, RTL Soir.
Mieux voir.
RTL Soir, Thomas Soto.
18h09, la suite du journal Isabelle Choquet. Ça devait être début avril initialement. Finalement, le SIDAction, c'est aujourd'hui.
Une soirée sur France 2 pour soutenir la lutte contre le SIDA qui en a bien besoin. 173 000 personnes en France vivent avec le VIH. 24 000 ignorent qu'elles sont séropositives. Et les jeunes semblent à nouveau particulièrement fragiles. Les moins de 25 ans représentent 13% des nouvelles contaminations. C'est 2 points de plus en un an. Bonsoir Odile Pouget.
Bonsoir.
Ces jeunes, ils sont à la fois mal informés et totalement inconscients du danger.
Oui, des jeunes qui semblent souffrir du syndrome du super-héros, c'est-à-dire qu'ils se sentent invincibles face au virus. Un jeune sur trois considère par exemple qu'il a moins de risques que les autres d'être infecté. Un jeune sur trois également pense qu'il existe des médicaments pour guérir du VIH. Des chiffres en nette augmentation par rapport à l'an dernier. Et puis certaines idées reçues ont décidément la vie dure. Florence Thun, directrice générale du SIDAction.
15% des jeunes qui pensent qu'on peut être infecté par le VIH en s'asseyant sur des toilettes publiques ou qui pensent qu'effectivement ils peuvent utiliser, alors pour les filles, la pilule contraceptive d'urgence pour éviter la contamination. On reste vraiment toujours sur ces fausses informations qu'on n'arrive pas à faire descendre en termes de pourcentage.
Il faut, selon les spécialistes, renouer avec les grandes campagnes d'information et les cours d'éducation sexuelle dans les lycées.
On doit normalement avoir 3 heures d'éducation à la sexualité chaque année et on ne les a pas. Donc là, c'est vraiment important de pouvoir enfoncer le clou sur cette prévention. Il faut aussi rappeler que les jeunes peuvent prendre du plaisir, avoir une sexualité épanouie, mais aussi prendre soin d'eux et se protéger.
Se protéger et se faire dépister régulièrement, 27% des 15-24 ans déclarent l'avoir fait au cours de cette année. C'est 5% de plus en un an et c'est la seule bonne nouvelle pour l'instant.
Odile Pouget, spécialiste santé d'RTL.
Mais si vous voulez, si vous pouvez faire un don au SIDAction, c'est tout simple. Vous allez allez sur le site sidaction.org.
Aux États-Unis, l'épidémie de coronavirus prend de l'ampleur, en tout cas dans les États du Sud qui ont déconfiné très vite. La Floride et le Texas sont particulièrement touchés. À Houston, 97% des lits de réanimation sont occupés. On est proche de la saturation. Du coup, changement de ton des autorités. On demande maintenant aux citoyens de rester chez eux et de porter un masque. Message qui a beaucoup de mal à passer, Philippe Corbet.
Oui, car ce bout de tissu est devenu ici un sujet de clivage partisan fiévreux. Pour beaucoup d'Américains, porter un masque, c'est céder au politiquement correct, au système, aux médias. Au Texas, où j'étais il y a 15 jours, peu de gens avaient des masques. Certains me regardaient bizarrement ou refusaient de répondre à mon micro parce que j'en portais un. Et en Floride, voici ce que dit une habitante qui proteste contre les élus de son comté qui veulent rendre le masque obligatoire.
Vous ne pouvez pas obliger quelqu'un à porter un masque, sachant que ce masque tue des gens. Il tue des gens. Et tous ceux d'entre vous qui obéissent aux lois du diable, et vous, les docteurs, vous serez arrêtés pour crimes contre l'humanité.
Bon, je vous épargne le passage où elle explique que tout ça n'est qu'un complot pédophile des démocrates et de Bill Gates pour contrôler les citoyens. Mais vous comprenez pourquoi les gouverneurs de Floride et du Texas, très peuplés, sont réticents à l'idée de rendre obligatoire le port du masque obligatoire dans les commerces, les bars, les restaurants, qui en plus ne respectent pas les limites d'occupation parce qu'il fait très chaud dehors. Et donc les clients préfèrent rester à l'intérieur où c'est climatisé.
Philippe Corbet aux États-Unis pour RTL.
Les masques, nous, on les porte, mais il fait chaud. On est 8 à 10 degrés au-dessus des normales de saison, nous disait Peggy tout à l'heure.
Oui, une chaleur pareille, c'est vrai, on l'a déjà connue. Hein. Il y a un an, on était même en pleine canicule, mais on n'était pas en pleine épidémie. Dur, hein, surtout quand on travaille. Et encore plus dur chez vous, Samuel Goldschmidt, dans l'Est, avec votre climat continental.
Oui, l'apprentissage est particulier pour tous les travailleurs, à commencer par les plus jeunes qui sont retournés à l'école depuis lundi.
Bah, on commence à transpirer, on a très envie de l'enlever. Je pense que si ça avait été en hiver, ça aurait été déjà mieux.
Même découverte, mi-figue, mi-raisin dans les boulangeries.
Tous les apprentis, les boulangers, les salariés, on met tous un masque.
Bah, c'est pas évident, on n'a pas le choix. Il fait aussi chaud dehors que dedans, voire des fois plus dedans, derrière avec le four. On suffoque un peu.
Qu'est-ce que vous avez comme masque ?
Le même que vous, chirurgical. C'est impossible en tissu, c'est une catastrophe.
Et c'est sportif aussi dans ce salon de thé.
Mais à 37 degrés dehors, à courir sur la terrasse, qui sont à rallonge maintenant, je vous assure que c'est vraiment pas évident d'être masqué. On est obligé de parler plus fort, les gens ne nous entendent pas. Il manque aussi le sourire. Un bonjour, un sourire fait tout et derrière le masque, on voit rien du tout.
Il ne reste qu'à chercher des solutions techniques auprès des infirmières pro des masques.
Il faut surtout bien l'ajuster dès le départ. La difficulté ou le défi, c'est de l'adapter correctement, surtout quand on porte des lunettes.
Et à ceux qui n'ont jamais porté un masque au travail, qu'est-ce qu'on dit ?
Bienvenue au club.
Le reportage.
C'est bien de le prendre avec le sourire.
Oui, voilà. Puis c'est vrai qu'on a appris à les comprendre aussi, les soignants, dans cette période.
Évidemment. Et on a tellement besoin d'eux. Merci beaucoup, Isabelle. À tout à l'heure. Tout de suite, Rachida Dati est l'invitée d'RTL Soir pour une interview long format. Pour lui poser vos questions, vous nous appelez au 3210 ou ça se passe sur l'application RTL.
Thomas Soto, RTL Soir.